explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
Faire une pause pour changer d'air et prendre de la hauteur, c'est ce besoin irrépressible qui conduit Jacob Carou, étudiant de 23 ans, à négocier une année de césure avec son école pour partir vivre 7 mois dans une cabane de berger en ruine, perchée à 1700 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Une parenthèse au plus près de la nature et en quasi-autosuffisance sous le regard des aigles royaux et des isards, à l'ombre des bouleaux et des sapins, notre étudiant, devenu ermite, entreprend de rénover sa cabane et de vivre de façon la plus autonome possible. Il veut montrer que l'on peut se débrouiller avec peu de choses en prenant juste ce que la nature nous offre. Cette échappée sauvage ne sera pas uniquement l'occasion d'expérimenter des techniques pour vivre en pleine nature, elle l'amènera aussi à se questionner sur lui et son rapport aux autres. Jacob Carou raconte cette expérience et ce qu'elle lui a appris dans un livre intitulé « Vie sauvage, mode d'emploi » qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Cet après-midi, celui qui a gagné le surnom d'ermite des Pyrénées vient nous raconter les 7 mois qu'il a passé dans sa cabane, perdue dans la montagne. Et en fin d'émission, nous mettrons le cap sur le Massif Central avec une spécialiste de la région, la journaliste et autrice Caroline Drillon. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est réalisée par Hélène Kouyoumdjian et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Nicolas Delmas. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Je voulais vivre dans le silence, le froid et la solitude. Et je pense que le silence, le froid et la solitude seront les trois produits du luxe du monde de demain. Parce que notre monde devient de plus en plus bruyant, de plus en plus rapide, de plus en plus surchauffé, de plus en plus peuplé. Et vivre dans les bois, seul, devant un spectacle de splendeur, c'est un luxe inouï. Puis la troisième raison, c'est que il me plaisait de réconcilier dans la cabane. Je trouve que c'est très beau cette idée, c'est une idée qui vient du géographe Élisée Reclus. Finalement, peut-être que la solution, c'est de réussir, dans les sociétés, à réconcilier l'archaïque et le civilisé. Moi, un jour, j'ai vu cette phrase, je me suis dit, mais mon Dieu, la cabane est peut-être le laboratoire où réconcilier l'archaïque et le civilisé, c'est-à-dire vivons très archaïquement. Donc je pêchais, j'étais obligé de couper mon bois, j'allais puiser l'eau dans le lac en faisant un trou dans un mètre de glace, je vivais archaïquement, je vivais selon mes besoins et ma nécessité, mais j'avais pioché dans le magasin de la civilisation quelques avancées qui ne polluaient pas, des livres, des cigares, un peu de musique, et du coup j'essayais de faire de ma cabane le lieu, le carrefour où je réconciliais le bonheur de vivre très primitivement, mais les plaisirs les plus délicats.
Bonjour Jacob Carou.
Bonjour Daniel.
Vous avez sûrement reconnu la voix de Sylvain Tesson racontant en 2011 ce qu'il était allé chercher en allant vivre 6 mois seul dans une petite cabane au bord du lac Baïkal en Sibérie. Vous dites dans votre livre, Jacob Carou, que c'est en lisant Sylvain Tesson que vous vous êtes décidé. Vous aviez le même désir de silence et de sobriété en allant partir vous dans votre montagne dans les Pyrénées.
Oui, j'ai lu son livre il y a quelque temps, donc dans les forêts de Sibérie, et je pense que j'avais déjà un rêve de partir quelque part loin, m'isoler du monde, et en lisant son livre, ça m'a donné vraiment envie de faire de même, vraiment dans les mêmes conditions, bon, peut-être pas forcément partir dans le lac Baïkal ou en Sibérie, mais du moins dans les régions un peu en Europe, et j'ai trouvé les Pyrénées à mon aise.
Ouais, et vous aviez envie d'expérimenter de nombreuses techniques de survie et de vie en quasi-autosuffisance dans cette cabane.
Oui, après, bon, c'est pas vraiment de la survie, c'est plutôt de la vie, en fait, de la vie sauvage. Et la différence, qu'en fait, mon pronostic vital n'était pas en danger, donc en fait, c'est plutôt pour des techniques de confort et pouvoir vraiment vivre la vie de tous les jours.
Vous aviez aussi, Jacob Carou, rendez-vous avec vous-même dans cette cabane. Hein. Vous l'écrivez, vivre loin du monde pour tenter de me comprendre moi-même.
Oui, bah c'est comme Sylvain Tesson le disait, c'est la solitude est quelque chose de je pense de primordial pour déjà se connaître soi, parce qu'en fait, je pense qu'en fait pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne-là, et si on passe pas du temps avec soi-même, on peut pas savoir qui on est.
Alors votre aventure commence en 2018, vous aviez 23 ans hein, au moment où ça commence, engagé dans des études à Normale Sup, des études brillantes, vous négociez une année de césure pour aller expérimenter cette vie proche de la nature en quasi-autonomie. Et il semble que c'ait été un besoin irrépressible. Il fallait que ce soit tout de suite, maintenant. Vous n'avez pas attendu la fin de vos études. Pourquoi ce besoin comme une envie vitale presque?
Oui, alors en fait, j'ai déjà eu des projets similaires auparavant. Donc j'avais déjà en fait imaginé partir en Roumanie, partir aussi au Yukon. J'avais un contact là-bas pour partir m'isoler pendant 6 mois, mais c'était un peu difficile. Donc l'idée était déjà toujours là. Mais c'est vrai que je voulais faire ça avant de finir mes études, parce que c'est justement à ce moment-là qu'on a du temps, et c'est pas quand j'aurai un travail, des enfants, une famille, que j'aurais pu me permettre de partir pendant autant de temps et tout quitter.
Puis il y avait aussi ce besoin, en tout cas vous le confiez dans votre ouvrage, le sentiment depuis l'adolescence de jouer une certaine comédie pour vous faire accepter du groupe, de ne pas être vous-même. Vous dites, aussi loin que je me souvienne, je ne me suis jamais senti aussi heureux qu'entouré de nature.
Ben je pense qu'il y a, les êtres humains ont besoin de faire passer des messages et d'être compris, mais je ne me suis pas senti vraiment compris, je pense, quand j'étais plus jeune. Et justement, être dans la nature, c'est une forme d'acceptation aussi. Elle est là, la nature. Ouais. La nature, et il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'autre pour se sentir bien.
Mais ça vient de loin, hein, parce que vous dites au collège, au lycée, très vite on m'a surnommé le mec aux cabanes.
Oui.
Ouais. Oui. Vous sentiez différent, un peu à part, quoi. Vous étiez un peu le sauvageon, oui, de la classe.
Oui, je sais pas pourquoi ou d'où vient cette différence primaire, mais après c'est vrai que du coup ça a augmenté la distance entre moi et mes collègues de classe, et en plus de plus en plus je me suis, on va dire, éloigné ou émancipé justement dans les bois, dans les forêts.
Et la cabane que vous avez choisie pour faire cet ermitage, on va voir que ça n'en est pas vraiment un, parce que finalement vous allez rencontrer beaucoup de gens. Ça a duré 7 mois, cette cabane dans les Pyrénées, vous l'avez choisie comment?
Alors en fait, déjà j'ai choisi les Pyrénées parce que c'est un endroit assez sauvage, et en fait j'avais fait un mois de bivouac justement l'année précédente. J'avais cherché en fait des cabanes assez activement, j'étais voir sur des sites, sur refuge.info, il y a beaucoup de cabanes libres, et justement celle-ci était disponible, où en fait j'ai fait pendant mon périple d'un mois. J'ai visité plusieurs cabanes, dont celle-ci, et quand je suis arrivé vraiment sur le plateau de Baye, j'ai eu un coup de cœur sur le paysage. Et du coup,
décrivez-le, ce paysage qui est effectivement très bien décrit dans votre ouvrage, qui a l'air fabuleux. Alors racontez-nous.
C'est une cabane de berger, en fait, une ancienne bergerie qui est justement en pierre, qui était abandonnée depuis pas mal d'années, je pense, et en fait sur un plateau glaciaire où il y avait vraiment que de l'herbe. Donc j'avais une vue dégagée sur toute la vallée, donc aussi les montagnes. J'avais aussi une vue sur les montagnes d'Andorre, donc c'était assez chouette de voir les hauts sommets enneigés. Et j'avais un grand plateau entre des forêts, avec des sources aussi, donc c'était assez paradisiaque.
Ouais, paradisiaque, chose que vous n'aviez pas prévue quand même en arrivant en avril 2018, c'est qu'il y ait encore autant de neige sur ce plateau. La cabane est littéralement...
Ensevelie,
hein, oui. Il vous faut creuser pour retrouver la cabane qui vous faisait rêver.
Oui, en fait, quand j'étais auparavant demandé à la mairie du village comment étaient les conditions en avril, je voulais venir après ces périodes-là au printemps, on m'a dit oui, bon, après en avril tu peux venir parce que ça va commencer à fondre. Et bon, l'hiver a été assez rigoureux, et effectivement il y avait encore pas mal de neige, de poudreuse, donc c'était difficile les premiers mois.
Peut-être qu'à ce moment-là, hein, seul sur ce plateau de Baye enneigé, vous avez pensé à Into the Wild, ce livre écrit par John Krakauer, qui relate l'histoire réelle de Christopher McCandless, un étudiant brillant, comme vous l'êtes, tout juste diplômé, promis un bel avenir, mais qui rejette les principes de la société moderne et part pour un grand voyage au plus près de la nature, lui aussi. Un voyage qui le mène jusque sur les terres gelées d'Alaska.
Le jeune homme pouvait à peine contenir son excitation. Enfin, il allait être seul dans les vastes étendues désertes de l'Alaska. Au moment où McCandless pénétrait dans la forêt, l'eau coulait librement dans la plupart des cours d'eau importants et personne ne s'était aventuré très loin sur la piste depuis 2 ou 3 semaines. Il ne pouvait suivre que les traces à peine distinctes d'une autoneige. Il atteignit la rivière Teklanika le lendemain. Il ne soupçonnait pas qu'il était en train de franchir le Rubicon. Par son journal, nous savons que le 29 avril, McCandless passa à travers la glace quelque part. Le lendemain, au sommet d'une côte sur la piste, il aperçut pour la première fois les hauts contreforts d'un blanc éblouissant du mont McKinley. Et un jour plus tard, le 1er mai, il tomba sur le vieil autobus près de la rivière Sushana. Il était équipé d'une banquette et d'un poêle, et des visiteurs précédents avaient laissé dans cet abri improvisé des allumettes, de l'insecticide et d'autres produits essentiels. Il écrivit dans son journal « Jour de l'autobus magique ». il décida de s'installer quelque temps dans le véhicule et de profiter de son confort élémentaire. Il était fou de joie. À l'intérieur de l'autobus, sur un morceau de contreplaqué délavé qui obstruait une fenêtre dont la vitre manquait, il griffonna en pleine exultation une déclaration d'indépendance. Et maintenant, après 2 années de déambulation, c'est l'aventure finale, la plus grande. La bataille décisive pour tuer l'être faux à l'intérieur de soi et conclure victorieusement le pèlerinage spirituel. Il ne sera plus empoisonné par la civilisation qu'il fuit et il marche seul pour se perdre dans la nature.
Un extrait de Into the Wild lu par Guillaume Gallienne de la Comédie Française, suivi de la chanson End of the Road de la BO du film inspiré du livre Jacob Carrou. Je vous voyais écouter avec attention hein, cette lecture. C'est un de vos livres de chevet, Into the Wild.
Je l'avais dans les Pyrénées d'ailleurs.
Ouais. Et alors, ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que ça se termine pas très bien pour le héros, hein, Christopher McCandless, qui coupe les ponts, hein, qui sent sauvage, mais qui va s'empoisonner en mangeant une plante toxique qu'il n'avait pas su reconnaître. Est-ce que vous aviez aussi ça en tête, vous, en vous disant il y a des risques à aller se confronter à la nature. Là où je serais, alors le téléphone ne passait pas, hein, le portable ne passait pas dans votre cabane. Vous étiez quand même loin des premiers secours. Il y avait une part de risque, vous l'aviez en tête ?
Oui, je savais qu'il y avait aussi une part de risque non négligeable quand je suis parti là-bas, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il n'y avait pas non plus de réseau téléphonique, donc je ne pouvais pas appeler à l'aide en cas de pépin. Par exemple, si je me coupais par exemple quelque chose, une artère comme ça, ben je savais que j'allais pouvoir y passer. Mmh. Donc ça, c'était un risque qui était relativement assez grand. Puis après, c'est vrai que je me suis aussi blessé une fois dans le livre, où je l'explique, et heureusement que ça s'est bien terminé, mais j'ai réussi à panser la plaie et après à guérir, mais c'est vrai que par exemple si j'avais eu un problème, pour revenir au village, ça aurait été un peu compliqué.
Ouais. Alors vous, il y a un autre exemple, hein. Alors il y a effectivement quand vous vous blessez au pied, c'est assez loin l'histoire d'ailleurs, et il y a aussi, mais ça c'est plutôt au début de l'histoire, quelque chose qui aurait pu mal tourner, vous avez fait une erreur presque de débutant, si je puis me permettre, sur l'eau, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc vous n'aviez évidemment pas l'eau courante dans cette cabane, quelle eau buviez-vous ?
Je buvais l'eau d'une source qui était non loin de la cabane, environ 5-10 minutes à pied. Et en fait, pour moi, les sources en montagne sont toujours potables. Et alors que c'était pas forcément le cas, parce qu'il y a de la neige, et la neige, en fait, elle s'est infiltrée dans le sol. Et comme il y a pas mal d'élevage, en fait, et on le voyait pas, parce qu'il y avait cette couche de neige, et ben il y a des bactéries qui sont venues justement de ces crottes là et que j'ai bu, et je pense que t'es à l'origine de mes maux de ventre, donc je me suis senti un peu dans le même état d'esprit que Christopher McCandless à ce moment là
et ça c'était au début de l'histoire. Cette eau de fonte que vous avez bu sans la filtrer par la suite, vous avez appris à faire ce qu'il fallait. Il faut la filtrer.
J'ai pris du coup, heureusement que j'avais un filtre à gravité, un filtre mécanique à port, donc j'ai pu filtrer l'eau que je buvais ensuite.
Et alors il faut le dire aussi, quand vous arrivez dans cette cabane, quand on dit qu'elle est en ruine, elle est vraiment déjà très mal isolée. Vous avez très très froid. Hein. Pendant les premières semaines, vous ne vous réchauffez jamais. Et en plus, quand vous arrivez, c'est en fait un ancien squat. C'est plus qu'une ruine, c'est un dépotoir, cette cabane.
Oui, il y avait des affaires vraiment immondes. Il y avait de l'urine, il y avait des seringues aussi. Il y avait de la nourriture qui était à peine entamée, qui était en train de pourrir. Il y avait aussi beaucoup de souris. Et c'était vraiment une déchetterie, en fait, cette cabane. Et c'est vrai que le froid aussi était assez terrible. J'ai jamais pu avoir plus de 10 degrés avec un feu en journée. Je ne pouvais pas me réchauffer vraiment.
Avec des températures qui, pendant la nuit, descendaient dans les moins 10 degrés. Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment, la réalité est très loin de l'image romanesque que je m'étais faite de cette aventure. Je rentre à la maison, je laisse tout tomber.
C'est vrai qu'il y a plusieurs période de passage où en fait je me suis dit l'aventure est vraiment moins idyllique que je le raconte même. Mmh. Et c'est vrai que j'ai plusieurs fois j'ai pensé qu'est-ce que je fous ici en fait.
Même la solitude, vous qui vouliez vous couper du monde, la solitude vous pèse et vous êtes même surpris de ça, de vous dire finalement je ne suis pas si bien seul au milieu de nulle part.
C'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter parce qu'en fait je pensais que j'étais vraiment très misanthrope et très antisocial, et le fait de m'être vraiment au milieu de nulle part pendant plusieurs semaines où j'ai compris qu'en fait c'est pas vraiment exactement ce que je cherchais, mais c'est une phase quand même nécessaire.
Nous allons voir en quoi cette vie d'ermite dans la montagne vous a transformé, et puis vous allez nous raconter très concrètement comment vous vous y êtes pris pour vous nourrir, vous laver, faire votre lessive, retaper cette cabane en ruine. Votre livre s'intitule « Vie sauvage, mode d'emploi », c'est pas pour rien. Jacob Carou nous emmène pour un bivouac de 7 mois, au plus près de la nature, dans une cabane perdue des Pyrénées. Bel après-midi sur France Inter.
Je te tourne toujours autour, même de loin. C'est étrange, même en plein jour, je ne retrouve pas le chemin. Je nous vois faire des détours, tu déjoues mes tours, ça ne fait rien. Tu ne perds rien pour attendre, silence, absence, demain. Je ne perds rien en retour, construis la tour qui de loin. Et j'y séjourne, joue la distance, prince malin. Te ferai croire que se détourne l'histoire vers d'autres lointains. Irai faire luire mes atouts aux reines aux chairs de satin. Reviendrai croiser le fer de ton cœur de chienne au besoin. Même la cour. Le chant des sirènes, ça me fait rien, ça me fait rien.
Tourne-tour, c'était François and the Atlas Mountains sur France Inter.
Le soir, vers... je mets mon lit, 11h. Il est nuit. Nuit, oui. Ou alors le clair de lune. Et alors, ce qu'il y a de très beau, je ne dors jamais, la cabane fermée. Toujours la porte ouverte. Toujours, Et alors, de la porte, je suis couché comme ça, je vois la plaine de neige depuis le lit, quoi. Je dis... Ils sont plus nombreux que moi là-bas, vous savez. Ça vous donne cette impression, vous savez. Vous voyez ça, les lumières qui s'accroissent. Ça donne l'impression que ça grouille. Et vous êtes tout seul là. Alors là, si vous voulez dire, c'est le seul moment où je rêve.
Un berger rêvant dans sa cabane, surplombant la plaine de Naï dans les Pyrénées. Jacob Carou, vous qui avez vécu dans une cabane de berger pendant 7 mois dans les Pyrénées de façon quasi autonome, vous comprenez ce berger seul sur son lit qui s'amuse de voir l'agitation dans la plaine au loin ?
Oui, j'aime beaucoup cette image-là. Après, je voyais pas directement les villages en bas. Je voyais que les sommets des montagnes. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a aussi une petite anecdote, c'est qu'en fait, je voyais des fois des randonneurs ou des contrebandiers justement faire les chemins de randonnée pour aller justement échanger des cigarettes ou échanger de l'alcool. Ouais. Donc, je vois un peu cette impression qu'il a eue.
Ouais. Ouais, parce que vous étiez pas loin d'Andorre. Oui. Vous pensiez que c'était une rumeur cette histoire de contrebandiers la nuit avec leurs lampes frontales qui déambulaient dans la montagne. Mmh. Et vous les avez vus, ces contrebandiers?
Moi, je ne les ai pas vus directement, mais j'ai vu les lampes s'agiter plusieurs fois dans la nuit, donc je pense que ça peut être ça, oui.
Ouais. Alors, vos journées étaient bien remplies, hein, certainement que vous rêviez le soir, vous aussi, à la civilisation loin de vous, mais vos journées étaient bien remplies dans cette cabane. Vous souhaitiez être le plus autonome possible. Vous n'étiez pas en autarcie totale, hein, ce serait, d'ailleurs, vous le dites clairement dans votre ouvrage, hein, il y a parfois, même à un moment, vos parents qui viennent vous apporter un panneau solaire, la mairie du village le plus proche qui est rentrée dans votre jeu et qui vous met à disposition un peu de matériel, modestement, pour 600 euros de matériel, vous vous êtes engagé à rénover cette cabane et elle vous dit, on va vous donner un peu de matière première. C'est une belle opération pour la mairie parce que retaper cette cabane aurait coûté bien plus cher que ça si jamais ils l'avaient fait faire par des ouvriers. Et en plus de ça, eh bien, il faut que vous occupiez de la nourriture. Alors, il y a la cueillette déjà, les plantes sauvages autour de vous, c'est une bonne source de nourriture.
Bon, c'est vrai qu'après cette altitude-là, à 1700 mètres, il n'y a pas non plus beaucoup de plantes sauvages, mais j'avais quelques plantes, par exemple le quenopo de Bon-Henri, c'est un peu comme une sorte d'épinard en fait qu'on peut cuire à la poêle avec un petit peu de beurre. Ouais. J'avais aussi par exemple du cresson des fontaines, j'avais aussi pas mal de champignons, ça, les girolles et les autres champignons, c'est l'été, j'en ai mangé pas mal. Après, il y avait aussi des autres plantes plutôt aromatiques comme du serpolet, c'est un peu comme du thym en fait. Ouais. Où j'avais aussi de la menthe, de la réglisse, ouais. Beaucoup de baies aussi.
Des tisanes aussi, vous faites des tisanes d'aiguilles de sapin.
Aiguilles de pin, effectivement, ou pin ou sapin, et effectivement, ça recharge un peu en vitamine C.
Alors bon, c'est pas que de ça que vous vous êtes nourri, parce que déjà là, en un mois ou deux, vous perdez une dizaine de kilos, hein, si ma mémoire est bonne. Donc quand même, parce que à côté de ça, bon, alors il y a aussi le potager. Vous mettez en place un potager. Au début, il y a beaucoup de neige, donc ça marche pas tout de suite le potager. Et en plus, en montagne, vous êtes confronté à un problème, c'est que il y a une inertie, enfin un gradient de température entre le jour et la nuit, une différence de température très importante qui rend la culture compliquée. Comment vous y êtes pris pour faire pousser votre potager?
Et c'est vrai que la journée, on peut atteindre des températures très agréables, vingtaine de degrés, mais que la nuit, ça peut encore geler encore jusqu'au mois de juin. Et pour cela, en fait, j'ai construit une serre semi-enterrée qu'on appelle une walipini. En fait, c'est une serre qu'on creuse sous terre et on bénéficie de l'inertie thermique de la terre. En fait, au lieu d'avoir un plus 26 et moins 5 la nuit, on va plutôt vers des plus 10 à plus 5 degrés la nuit.
Alors dans votre ouvrage, hein, vous mettez les plans de cette serre. Hein, c'est vraiment aussi pour ceux qui voudraient essayer de reproduire certaines des expériences que vous avez pu mener pendant cet ermitage, entre guillemets. Et comment vous faisiez pour lessive, douche, vaisselle?
Un peu à l'ancienne, on va dire. La lessive, par exemple, c'était un long processus assez long, donc je faisais pas non plus des lessives toutes les semaines, hein. Ouais. Mais j'avais très peu de vêtements, et en fait, ce que je faisais bouillir une grande bassine d'eau. Donc, il fallait couper le bois, allumer le feu, faire chauffer l'eau, prendre l'eau. Ensuite, je prenais quelques copeaux de savon de Marseille, ou un peu de cendre aussi, du poêle à bois. Et je faisais tremper tous mes vêtements à l'intérieur, pendant, peut-être une heure. Et ensuite, je l'ai lavé à l'eau claire. Donc, c'est un processus qui demande pas mal de temps.
C'est ça, une lessive, c'est beaucoup de boulot et c'est une matinée entière pour deux pantalons et trois t-shirts.
Oui, environ.
Et puis, alors, là aussi, vous donnez la recette. Hein. Quand c'est très sale, évidemment, il faut rajouter de la cendre. C'est aussi une façon très, très écolo. Vous ne vouliez pas polluer votre environnement.
Après, j'essayais de prendre des produits qui sont plus ou moins naturels. Mais après, c'est vrai que, par exemple, le savon de Marseille, après, je le rejetais pas directement dans la rivière. Je le mettais plutôt dans le sous-bois où, en fait, il y avait des champignons qui pouvaient décomposer les composés.
Il y a vraiment à chaque fois une réflexion de la façon dont vous vivez, de votre impact sur l'environnement.
C'est une sobriété, je pense, quelque chose de moins consommé, un peu comme aussi le dit Jean Covici, de moins consommer pour être, de comprendre un peu nos dépenses énergétiques.
Ouais. Et puis il y avait aussi les travaux de rénovation de la cabane. Alors là, vous avez entrepris des travaux assez lourds, vous avez ouvert une porte entre les deux pièces de cette cabane pour qu'on ne soit pas obligé de passer par l'extérieur. Et puis vous avez mis un toit végétalisé sur cette cabane. On a mis des photos sur la page Facebook où on la voit quand vous êtes arrivé dans la neige et puis ensuite après travaux. Ça vous a pris énormément de temps parce que la moindre planche de bois, vous allez dans la forêt, vous coupez un tronc, vous taillez le bois, c'est un vrai boulot.
Oui, c'est vrai qu'en fait, quand j'ai fait un peu mes plans, quand j'ai dit à la mairie un peu Mon but, en fait, j'ai pensé qu'aller en 2 ou 3 mois, ça serait fait. En fait, j'ai mis plutôt 6 mois à rénover la cabane.
Ouais, c'est énormément de travail. Ouais. Alors, on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de cette émission, mais en plus, alors, c'est là où c'est pas un ermitage absolu, parce que de temps en temps, de loin en loin, vous avez filmé votre travail, et de loin en loin, vous alliez poster des vidéos sur YouTube. De loin en loin, c'est une fois par mois. Hein. C'était pas votre activité, vous n'étiez pas devenu YouTubeur. C'est de temps en temps, vous alliez donner un peu votre journal de bord, et vous avez été suivi par énormément de gens. En fait, ça a passionné les gens de voir cette cabane se rénover mois après mois.
C'est vrai qu'au début, en fait, j'ai commencé à faire ce sorte de journal vidéo parce que j'aimais bien, enfin, j'avais déjà une chaîne YouTube auparavant, j'aimais bien du coup poster des choses. Enfin, c'est un peu ma manière de communiquer, de faire passer des messages. Donc, j'ai continué de faire ça pour faire un sorte de journal de bord. Tous les mois, je postais un peu les faits et gestes, enfin, tout ce que j'avais fait jusqu'alors dans la cabane. Et c'est vrai qu'en fait, plusieurs mois après, au début, c'était assez calme. Mais ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça. Et c'était, je crois, à la fin de l'aventure ou quasiment à la fin, l'été-automne, qu'il y a énormément de gens qui ont vu ça. Et c'était énormément partagé sur les réseaux sociaux. Et je ne m'attendais absolument pas à cette réaction.
Vous avez été un peu dépassé par
oui,
ça.
Complètement.
Ça témoigne du lien que l'on a, que nous sommes nombreux à avoir avec ces cabanes. Le philosophe Gilles Tiberghien, que vous citez dans votre ouvrage, a beaucoup réfléchi aux cabanes, à leur symbolisme, et au fait qu'on n'habite pas de la même façon une cabane qu'une maison. Écoutez-le.
Le fait qu'on n'habite pas une cabane, c'est, à la différence d'une maison, c'est lié à ce que ces cabanes sont pour moi des espaces éphémères dans lesquels on ne peut pas s'installer, qui, à la différence des maisons qu'on appelle des demeures parfois, sont sans racines, sans cave ou sans grenier, où on n'entrepose rien de notre mémoire. Des espaces où l'on transite, en fait. Des espaces où il y a un va-et-vient permanent entre le dedans et le dehors, entre nous et l'autre. Dire que les cabanes sont des observatoires, c'est une belle définition de la cabane. La cabane comme un observatoire sur soi-même et sur le monde.
Le philosophe Gilles Tiberghien, Jacob Carrou, il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais vous faire réagir. Cette idée d'abord que la cabane n'a pas de mémoire, contrairement à une maison, c'est un lieu où l'on ne fait que passer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est tout à fait vrai, exactement aussi dans le cas où j'étais, parce qu'en fait, c'était pas ma cabane. Donc je suis venu pour la rénover, pour après que d'autres personnes puissent ensuite l'utiliser, s'abriter d'un orage, passer une nuit, d'autres randonneurs. Donc c'était pas non plus, c'est exactement cette même philosophie.
Et cette idée que la cabane est un observatoire, on est beaucoup plus tourné vers l'extérieur quand on habite une cabane.
Forcément, parce que la cabane est beaucoup plus petite qu'une maison. Donc en fait, c'est un petit cocon, mais c'est juste pour dormir ou quand vraiment les éléments se déchaînent. Mais après, la plupart du temps, on est davantage dehors.
Oui, c'est vrai que vous avez vécu des tempêtes et des orages mémorables dans cette cabane. Vous dites, d'habitude, j'aime les orages, mais là, j'étais pas fier sur ce plateau incliné de baie.
Oui, j'ai vu la foudre tomber à 50 mètres de la cabane et je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne idée d'être dans une cabane avec un toit en tôle ou un tipi juste à côté en plein milieu d'un orage?
Oui, parce qu'à ce moment-là, le toit était encore en tôle, il n'avait pas encore été végétalisé. Non. Puis il y avait, toujours sur ce point d'observatoire, il y avait tout autour de vous une faune, hein. Quels animaux habitaient, qui étaient vos voisins?
J'avais des renards, j'avais aussi des martres des pins, donc c'est un petit mustélidé un peu comme une fouine, qui faisait un peu de grabuge souvent. J'avais aussi des isards, en oiseaux, j'avais aussi des aigles royaux, comme vous l'avez cité auparavant. Mmh. Et il y avait aussi des ours qui n'étaient pas très loin, donc pas exactement aux côtés de la cabane, mais il y avait des ours qui étaient dans les parages. Il y a eu quelques passages.
Ouais. Alors, oui, c'est ça. Vous les avez jamais vus, les ours, mais ils vous ont causé certains problèmes. Alors, pas les ours directement, mais les débats qu'ils suscitent. À un moment, une amie à vous vient quelques jours, passer quelques jours avec vous dans la cabane. Elle dessine sur l'un des murs une fresque qui représente un ours. Et quelques temps après, vous vous rendez compte, parce qu'un berger qui s'appelle Moïse vient vous voir, et vous vous rendez compte qu'en fait, toute la vallée est au courant qu'il y a un ours dessiné dans cette cabane. et que ça pose un problème, que des gens sont venus vous épier pendant la nuit pour voir ce que vous faisiez, ça crée une animosité à votre égard.
Bah, moi qui ne suis pas des Pyrénées, en fait, je ne connaissais pas toute cette problématique des ours. Et effectivement, il y a beaucoup de certains locaux, en tout cas, qui sont très anti-ours. Notamment certains bergers, pas tous, mais la plupart n'aiment pas trop cet animal-là.
Ouais, alors même, on vous dit, certains envisagent de venir, en gros, vous casser la figure, en quelque sorte.
Oui, j'ai eu quelques frayeurs. En fait, dans l'épisode de la cabane, en manière générale, j'ai pas eu de grosses frayeurs, hormis en fait encore celle des humains.
Ouais, c'est pas les ours qui vous ont fait peur, ce sont les anti-ours. Finalement, les anti-ours ne mettront pas leur menace à exécution, mais vous allez avoir la visite des junkies qui avaient squatté la cabane avant vous et qui entendaient bien réinvestir les lieux. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Le temps d'un bivouac sur France Inter avec Jacob Carou qui nous raconte son aventure en pleine nature dans les Pyrénées, pas toujours aussi solitaire qu'il l'avait prévu. C'était Falls, Mountains at My Gates sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Je vous présente Coquette et Henny, mes deux nouvelles amies ici.
Alors là, c'est mon potager qui me donne des légumes. Les épluchures de légumes, je les donne aux poules qui sont dans le poulailler ici. Les poules me donnent des œufs et aussi de la fiente que je peux mettre de temps en temps dans le poulailler. J'ai un système qui marche de pair. Puis après, pour les fruits, je peux aller plus haut dans la forêt en récupérer.
Pour l'eau, je vais la chercher dans une source qui est plus haut. Je la mets dans une grosse bonbonne qui me tient quasiment une semaine. Et après, la mairie m'a acheté un petit filtre à pompe qui filtre à 0,2 micron. Et ensuite, faut bomber comme ça.
Jacob Carou, quelques extraits des petites vidéos que vous avez mises en ligne sur YouTube pendant que vous viviez dans votre cabane perdue dans les Pyrénées en expérimentant une vie la plus autonome possible. Là, on a un peu forcé sur le nombre de poules et on entendait même un coq. Vous aviez que deux poules.
C'est ça, oui.
Vous aviez pas de coq dans le lot. Vous avez acquis au bout de quelques mois donc deux poules pour aller justement vers plus d'autonomie.
Exactement, oui, parce qu'en fait, les poules, c'est très intéressant, parce qu'on peut avoir un apport de protéines, ce que je n'avais pas forcément auparavant. Bon, en fait, j'ai acheté un peu de viande de temps en temps, très peu, mais là, je vais pouvoir avoir un apport de protéines sur place, vraiment.
Alors, il y a quand même un peu un paradoxe, hein, pardon de l'aborder, mais ces vidéos que vous alliez poster en descendant au village, même si c'était de loin en loin, une fois par mois, vous qui vouliez vivre seul, un peu loin du reste du monde, expérimenter un mode de vie loin des technologies modernes, bah vous restez finalement un petit peu connecté.
Oui, c'est vrai, je restais du coup de temps en temps, du coup, enfin tous les mois, j'allais poster une vidéo. Mais après, le physiquement, je restais quand même seul, je restais quand même en lien avec la société, enfin au moins sur un point de vue des certains réseaux, pour justement, comme je voulais faire, partager ce que je faisais sur une sorte de journal de bord. Mm-hmm. Mais après, physiquement, je suis quand même resté la plupart du temps seul.
La plupart du temps, vous étiez seul, et ça vous a valu quelques visites, hein, parce que les gens qui vous suivaient sur Internet ont identifié évidemment le lieu où se trouvait cette cabane. Et lors de randonnées, bah des fois, hop, on passe voir Jacob comme si c'était le pote, alors que vous, les avez jamais vus. Mmh. Mais vous, eux, ils se sentent très proches de vous.
Oui, bah c'est vrai qu'il y a une différence, parce qu'en fait, ces personnes-là me connaissent par rapport à ce que je partage, mais moi, je les connais pas. Ouais. Et c'était l'été, il y a eu quand même pas mal de passages, pas mal de randonneurs justement qui sont venus découvrir les lieux, découvrir le coin. Et bon, c'est vrai qu'après, j'aurais bien été un peu plus seul. Ouais. Et heureusement qu'après, à l'automne, la montagne s'est vidée et j'étais plus tranquille.
Mais quand même, vous avez reçu la visite, justement, quand la montagne se vide, de gens qui, eux, n'avaient pas du tout entendu parler de vous, mais qui connaissaient très bien l'existence de la cabane pour l'avoir squattée avant vous. Racontez cette rencontre. Dans l'ouvrage, on a un peu le cœur qui se serre pour vous, parce que vous êtes tout seul dans cette cabane, avec aucun téléphone qui capte, et vous voyez ce groupe.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait 3 ou 4 personnes qui étaient venues à ce moment-là. Et je pense que c'était ces personnes-là qui étaient déjà venues l'année précédente. Et en fait, à l'automne, en fait, toutes les saisons, ils viennent pour justement prendre des champignons. Ils sont hallucinogènes. On les trouve sur les bouses de vaches, donc des vaches qui sont dans le champ, dans le plateau. Et du coup, pendant plusieurs jours, ils font des sessions comme ça de mangeage de champignons.
Oui, alors ils arrivent, petit groupe de gens à la recherche de champignons hallucinogènes. Au début, vous essayez d'être ferme, de leur dire non, on ne peut plus habiter la cabane, elle est en rénovation, c'est interdit par la mairie. Le ton monte un peu, l'un d'eux est prêt à en venir aux mains, il est calmé par les autres. Finalement, vous leur proposez de camper à côté de la cabane, ils acceptent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous sympathisez avec eux. Et vous qui vous interrogiez beaucoup sur votre rapport aux autres, votre marginalité, le fait que vous aviez ce côté différent, un peu asocial, ce sont vos mots que j'emploie, vous vous dites, mais finalement, je leur ressemble beaucoup.
Oui, c'est vrai qu'en fait, en discutant un peu plus avec eux, en fait, il y avait une sorte de ressemblance, parce qu'en fait, ils étaient pas forcément attirés par ce type de personnes-là, mais comme partie d'autres personnes peuvent aussi pas être forcément attirées par un mec qui était barbier hirsute et en short, un peu pas très bien habillé. Et c'est vrai qu'en fait, en discutant un peu plus avec eux, ils avaient aussi une connaissance des plantes sauvages, des champignons, forcément, et un amour des grands espaces pour venir s'isoler dans cette cabane-là, qui nous a un peu plus rapprochés, en fait, lui, ça a pris.
Alors, à quelques brefs moments, ce qui devait être une aventure solitaire se transforme en campement collectif. Il y a plusieurs moments où tout d'un coup, les circonstances font que vous vous retrouvez, vous qui vouliez, qui vous croyez surtout un peu loin des autres, pas fait pour la vie en groupe, avec une, vous dites, je pensais avoir une phobie sociale. Ouais. Et finalement, vous vous surprenez à apprécier ces moments improvisés où le campement devient un campement de groupe.
Ouais, je pense que le fait d'être en pleine nature, ça me réconcilie un peu plus d'être avec les gens. Je pense qu'il y a une sorte d'équilibre à avoir. Et comme je passais, plusieurs jours auparavant au sol, après que je vois de temps en temps des personnes, et ben en fait, ça me réconcilie un peu plus avec les gens qui ont des goûts, des hobbies à peu près similaires aussi aux miens.
Alors, ces 7 mois en montagne ont été plein d'enseignements pour vous. Avant que vous nous disiez lesquels, plus exactement, je vous propose de retrouver Sylvain Tesson, à qui Kathleen Evin demandait en 2011 sur France Inter ce qu'il avait appris des 6 mois passés dans sa cabane au bord du lac Baïkal dans les forêts de Sibérie.
Il y a une chose, il y a une seule chose qui a été pour moi une révélation, qui est le sentiment de la liberté dû à l'immersion et dû à la possession du temps. Ça a été ma révélation. Jusqu'alors, j'avais fait des grandes traversées continentales, parfois 3000, 5000, 6000, 25000 kilomètres à bicyclette. Et je croyais que c'était ce nomadisme, cette vie de mouvement qui m'apportait une certaine liberté. Et puis là, je me suis rendu compte, en faisant une chose que je n'avais jamais faite, et qui était de rester parfois pendant une heure à la fenêtre en regardant la neige tomber à travers la fumée d'un thé ou d'un cigare, ou à travers les brumes d'une vodka. Et je me suis aperçu qu'au fond, le véritable sentiment de liberté venait d'un rapport qu'on émettait entre soi et le temps, et c'est-à-dire la possession des heures. La possession de ces 24 heures est un trésor absolument inouï. Et le fait de savoir que vous les possédez et que vous pouvez les aménager exactement comme vous l'entendez, sans que jamais tous les impératifs de la vie en société qui vous obligent d'être à l'écoute, de répondre, enfin de vous socialiser, quoi. Eh bien, cette possession des 24 heures vous donne à la fois un sentiment de vertige, mais de profonde liberté, quoi, d'apaisement magnifique.
Jacob Carrou, je vous voyais acquiescer en écoutant Sylvain Tesson. Vous avez été le plus souvent seul dans cette cabane, vous aussi. Vous avez, vous aussi, eu l'impression de goûter à un autre rapport au temps.
Oui, c'est, il y a différents moments, en fait, le temps, on dit qu'il s'allonge, en fait. Il y a, par exemple, des moments où, devant un coucher de soleil, où en fait on apprécie vraiment d'être à ce moment-là et voir le temps passer. C'est comme une sorte de télé en réalité, et on voit tous les paysages évoluer, la lumière changer et tout ça, donc c'était quelque chose de très très passionnant.
Et au moment de quitter cette cabane, vous ressentez le lien qui s'est créé vraiment avec cet endroit, avec ce lieu.
Passer autant de temps, et c'est vrai qu'avoir des sentiments aussi assez qui montent et qui descendent assez vite. En fait, quand on est tout seul, les sentiments sont amplifiés aussi, donc il y a un rapprochement qui a été fait.
Ouais. Vous dites toujours un peu dans l'esprit de Sylvain Tesson, qui parlait de la fonction maternelle que remplit la cabane, vous avez ressenti ça finalement?
Oui, je pense que c'est une sorte de cocon où en fait on est un petit peu dans le ventre d'une mère, on va dire, assez... Comment dire, assez privilégié ou trop protecteur. Oui.
Alors, vous avez appris beaucoup sur vous. Les termes que vous employez, là encore, ce sont des séismes. Vous avez eu l'impression que cette expérience a provoqué plusieurs séismes en vous. Qu'est-ce que vous retenez? Alors, ça date un peu, hein, vous avez vécu cette expérience en 2018. Depuis, vous avez repris une vie, entre guillemets, plus classique. Qu'est-ce qui reste de ce moment-là?
Moi, je pense que c'est surtout mon rapport aux autres, en fait, que j'ai compris que c'est pas forcément l'être humain de manière générale que je m'entendais pas. C'est certaines personnes avec qui je m'entends mieux que d'autres, et il faut trouver ces personnes-là. Et justement, j'essaye de construire ma vie pour après rencontrer ce type de personnes.
Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette cabane, aujourd'hui?
Ah, bah, du coup, elle est toujours libre d'accès. En fait, il y a une partie qui est toujours accès pour les randonneurs l'été. Et après, on peut même aussi demander après à la mairie ou aux autorités de pouvoir aussi passer de voir l'autre partie. Donc, elle est toujours, justement, d'actualité, disponible pour les randonneurs pour passer une nuit.
Sur la fresque de l'ours, je crois que la tête de l'ours a été barrée.
Oui, malheureusement.
Les anti-ours, quand même, sont passés par là. Oui. Mais la cabane, elle a toujours de l'allure. Encore une fois, on a mis la photo sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour ceux qui voudraient la voir. Et puis, je crois aussi que ces 7 mois en montagne vous ont aidé à y voir plus clair sur ce que vous vouliez faire plus tard. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Alors, Julie, en fait, je fais de la recherche. Je fais un doctorat de climatologie. Je travaille sur le climat passé grâce aux glaces d'Antarctique. Et je vis, en fait, toujours dans une sorte de petite cabane, dans un dôme géodésique que j'ai construit à l'aide d'amis. Et en fait, j'ai toujours en plus ou moins les mêmes technologies. En fait, j'ai aussi un petit panneau solaire, j'ai aussi une petite bonbonne d'eau, et j'ai aussi un petit chauffage à un poêle à bois.
Mais tout ça en banlieue parisienne, dans la vallée de Chevreuse.
C'est ça, oui.
Donc vous avez trouvé un compromis. Vous vivez près de la nature, dans une cabane, mais un peu plus proche de la faculté où vous faites votre thèse.
Exactement.
Merci, Jacob Carrou, d'être passé nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Vie sauvage, mode d'emploi, l'ermite des Pyrénées. Vous restez avec nous, Jacob Carrou. Dans un instant, on change de montagne. Nous partons pour une excursion dans le Massif central avec la journaliste et autrice Caroline Drion.
Thank you.
C'était Charlotte Gainsbourg et Django Django Waking Up sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée, comme chaque semaine, Muriel Pérez.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Là, on peut contempler la chaîne des puits à notre droite. Et sur le côté gauche, on a la puissante échine, la puissante crête des monts du Forêt, qui a longtemps constitué une frontière entre l'Auvergne et le Forêt.
Voilà, donc on est en train de partir en direction du sud et on va approcher du château de Ravel.
Voilà, le magnifique château de Ravel. C'est une forteresse du XIIe siècle et qui a été récupérée par la couronne de France. Philippe Auguste s'en est emparé.
Ah, d'accord.
Pour contrôler le territoire,
oui.
Et avoir la main mise sur les ducs, les seigneurs d'Auvergne.
D'accord.
Christian Laporte, architecte du patrimoine survolant l'Auvergne pour le magazine des Racines et des Ailes. C'est donc par la voie des airs que nous arrivons dans le Massif central. Bonjour Caroline Drion.
Bonjour Daniel.
Vous êtes journaliste et autrice de plusieurs livres sur le Massif central et l'Auvergne en particulier. Et vous signez dans le numéro spécial du magazine Relief consacré au Massif central un très bel article intitulé « La terre du milieu ». En quelques pages, vous montrez à quel point ce massif est riche en termes de culture et puis de paysage aussi. Et vous commencez en rappelant que le Massif central n'existait pas avant 1850. Les lieux existaient bien sûr, mais cette dénomination de Massif central est assez récente, Caroline Drion.
Effectivement, on pouvait apercevoir un énorme massif comme ça qui se dessinait au cœur de l'Hexagone, mais il n'avait pas été identifié et finalement pas nommé avant le tout début du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est dans la deuxième partie du XIXe qu'on a commencé à s'intéresser d'un peu plus près à cette espèce de grosse virgule inversée qui existait au centre de la France, et il a fallu attendre vraiment le début du XXe siècle, l'intervention d'un géographe, Paul Vidal de la Bloche, qui a été le premier à parler de massif central, et donc à partir de là a donné son nom à cette entité géographique particulière. Et on a eu le même phénomène en Auvergne, où pendant très longtemps les volcans n'étaient que des montagnes. Il a fallu attendre que le géologue Guettard arrive et que lui dise, mais attendez, ce ne sont pas de simples montagnes, ce sont des volcans. Le fait de nommer les choses pour mieux les comprendre et pour mieux les connaître, finalement arrive assez tard dans l'histoire géologique des territoires.
Ouais, alors c'est un kaléidoscope de paysage et de culture, hein, ce massif central, on change de paysage tous les 15 kilomètres.
À peu près, c'est ça qui est assez étonnant. C'est vrai que si on s'amusait avec des bottes de 7 pieds à franchir tout le massif central, on découvrirait un kaléidoscope, une kyrielle de paysages qui sont tous très différents. On a des terres d'estives, on a des volcans, on a des vallons, on a des grandes plaines qui sont vouées à la culture des céréales. On a beaucoup de forêts aussi, y compris des forêts séculaires,
ouais.
Comme la forêt de Troncé.
Oui, la forêt de Troncé.
On a des défilés, etc.
Ouais, ouais, alors ouais. Prenons le temps, on le prend du nord au sud. Alors on a le plateau de Millevaches, la forêt de Troncé, c'est une des plus belles chênaie d'Europe, hein, n'ayons pas peur.
Oui, carrément. Oui, oui, on a une collection d'arbres absolument remarquable et multiséculaire, beaucoup étant réunis dans un petit espace qu'on appelle la cité Colbert, qui a été initiée à la fin du XVIIe siècle, et on a des chênes qui sont absolument extraordinaires et qui justifient à eux seuls la balade. Alors c'est un massif forestier qui est absolument très très grand, qui investit les deux territoires, donc de l'Allier, les deux départements de l'Allier et du Cher, et c'est la plus belle forêt d'Europe. Mais c'est ça qui est étonnant dans ce massif. Massif central, c'est qu'on a des paysages qu'on ne voit nulle part ailleurs. Sans vouloir manifester un chauvinisme exacerbé, cette forêt qui est exceptionnelle, on a des paysages volcaniques qui sont quasiment uniques en Europe et en tout cas en France, ça on peut en être certain.
Ça, c'est un trésor géologique, hein, cette barrière volcanique. Alors, vous le dites, il y a une centaine de dômes, et quelques stars parmi ces...
Des dômes, des puits, etc. Oui, vous avez en fait trois chaînes identifiées qui sont à la fois sur le Puy de Dôme et le Cantal, avec la chaîne des puits, alors que les gens connaissent peut-être un petit peu mieux parce qu'elle a défrayé un peu toutes les chroniques médiatiques récemment. Elle a été inscrite en 2018 sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l'UNESCO. Après, on va trouver les Monts d'Or, le Sancy. Alors, on a d'un côté donc des puits dans la chaîne des puits qui sont très arrondis. Du côté du Sancy, on va se retrouver avec des volcans beaucoup plus écrêtés. Et puis, on va arriver dans le Cantal où on a une vieille chaîne volcanique et ça fait des paysages absolument époustouflants. Où là, vraiment, on se rend compte que c'est un territoire aussi, d'une manière générale, où la nature est très, très présente.
Et si on descend encore un peu vers le sud, on arrive sur le plateau de l'Aubrac, qui lui aussi est le résultat d'un épisode éruptif. On est encore en terre volcanique à ce moment-là.
On est encore en terre volcanique, on va arriver sur l'Aubrac avec la vase de Rache éponyme. Vous savez, ces vaches qui sont magnifiques avec les yeux maquillés. Donc l'Aubrac, on a le massif du Devèze, on a le Mégal, en Haute-Loire également. On va arriver donc au Mézac et à la limite de l'Ardèche. Et c'est là qu'on va finalement arrêter de découvrir des volcans. Sans doute paysages qui vont prendre la relève. Une fois de plus, on change de paysage puisqu'on va arriver sur les Cévennes. Et puis après, sur toute la collection de plateaux karstiques, à savoir les Causses. Voilà.
Et les Causses, alors, pardon, parce que les Causses, effectivement, c'est en soi, là aussi, un plaisir incroyable comme paysage, et ça vaut le coup d'aller jeter un œil au sous-sol quand on arrive dans les Causses.
Voilà, il y a deux paysages en fait, un qui se voit qui est à la surface, qui sont ces grandes étendues de calcaire, donc c'est un paysage assez étonnant, très très dénudé. On va passer finalement des parties volcaniques qui sont quand même recouvertes de végétation pour arriver à des grandes étendues où la végétation diffère complètement. Et puis quand on s'enfonce dans le sous-sol, là on a un autre paysage, alors c'est le paradis des spéléologues, mais beaucoup de ces gouffres, de ces abîmes ont été aménagés de manière à ce que le public puisse y avoir accès, et on va s'enfoncer dans les entrailles de la Terre pour découvrir des forêts de stalactites, de stalagmites. On a des gouffres comme le gouffre Armand, comme le gouffre de Padirac, où on a une formation géologique absolument extraordinaire, une rivière souterraine même qui coule au fond. Et c'est dans le massif central aussi, puisqu'on est dans le domaine des grottes, qu'on va découvrir la grotte Chauvet. Voilà, qui est quand même aussi l'un des sites majeurs, alors historique bien sûr, archéologique ô combien, et qui lui aussi est inscrite à l'UNESCO.
Et puis, Caroline Drillon, le Massif central est aussi perçu comme le château d'eau de la France. Et vous dites que, vu du ciel, le Massif central surprend par l'abondance de ses lacs et de ses étangs. Pourquoi tant d'eau ?
Oui. On a tous un peu une vision, on a tous en souvenir l'école primaire avec un instituteur qui nous disait le château d'eau de la France, la Loire, le fameux fleuve la Loire qui prend sa source au moyen Gerbier-de-Jonc dans le Massif central. Et quand on s'élève comme ça, si on regardait le Massif central vu du ciel ou à bord d'une montgolfière qui va un petit peu vite, on verrait une kyrielle de lacs, d'étangs, de rivières, de fleuves. Il y en a partout, c'est-à-dire qu'il est vraiment difficile de trouver un endroit dans le Massif central où on ne va pas avoir l'omniprésence de l'eau, qu'elle jaillisse en cascade, qu'elle jaillisse en source, qu'on la découvre sous forme de ruisseaux, avec des rivières comme ça emblématiques qui ont vraiment donné leur identité aussi au territoire. Dans les Combrailles, vous êtes dans un territoire, par exemple, de forêt avec la Sioule qui court au milieu. On aurait pu y tourner le film, mais au milieu coule une rivière, sans problème. Ah oui, on a vraiment cette sensation-là. On a l'impression d'être plongé dans une espèce de Montana miniature, avec des fleuves qui ont aussi dessiné des gorges. C'est le cas de l'Allier, c'est le cas de la Loire, qui ont vraiment creusé les dessins. Il est extrêmement profond, et donc une fois de plus avec une géographie et une géologie très particulière et des paysages qui sont complètement étonnants. Ouais. Et Caroline... ce qui est intéressant, des paysages qui restent accessibles. Quoi.
Oui, qui restent accessibles. C'est ce que j'allais vous dire, hein, Caroline Drillon. Oui. Vous êtes en train de nous donner plein d'idées pour les prochaines vacances,
mais
quand on sera enfin déconfiné pour de bon. Alors on a compris que le kayak, c'était le bon endroit pour y aller. Donnez-nous, allez, on a 30 secondes, un point qu'on n'a pas encore abordé, un point peut-être injustement méconnu du Massif central que vous nous conseillez pour ces prochaines vacances.
Alors moi, j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour le Césalier, qui est également un appareil volcanique, hein, qui est situé juste à côté donc, du massif du Sancy, sur le département donc Cantal, Puy-de-Dôme. On est vraiment les limites géographiques, hein, les limites administratives en Auvergne, elles sont un petit peu ténues. Et il faut imaginer comme ça un décor absolument magnifique de moyenne montagne, où on a un petit peu cette impression, c'est un écrivain auvergnat qui l'avait dit, Henri Pourra, d'aller en plein ciel. La limite entre la terre et le ciel devient très très ténue. Et on a un panorama à 360 degrés et cette sensation finalement d'être décorporé, quoi, de sortir de soi-même pour plonger vraiment au cœur du paysage.
Merci.
Le Césalier, voilà.
Ouais, bah merci pour ce...
moins connu, mais très très beau.
Pour ce conseil, vous abordez, Caroline Drillon, bien d'autres aspects hein, dans votre article. Les savoir-faire locaux, les fromages, la coutellerie et puis la diversité architecturale. Votre article s'intitule « La terre du milieu ». Il est à lire dans le numéro spécial de la revue Relief consacré au Massif Central, disponible en librairie. Un numéro proposé à l'occasion de la candidature de Clermont-Ferrand au titre de capitale européenne de la culture en 2028. Un grand merci à vous, Caroline Drillon. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Pour réécouter cette émission et les précédents épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast et puis nous laisser bien sûr un message sur la page Facebook du temps d'un bivouac. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, on retrouve Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin. Aujourd'hui, le passant du temps.